that kills, but the ignorance.
VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Ouagadougou, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Burundi, après 12 jours de contestations violentes contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza, la communauté internationale multiplie les démarches pour désamorcer la crise dans le pays. L'Union africaine estime que le climat n'est pas propice aux élections, ouvrant la voie, selon l'AFP, à un possible report des législatives et des présidentielles prévues, respectivement fin mai et fin juin. En RDC, au moins 8 tués dans les affrontements entre pygmées et bantous à Manono, dans la province du Katanga. Des précisions avec Eddy Issango.
Plusieurs blessés ont été enregistrés dans ces affrontements. L'abbé Moïse Kilouba, coordonnateur de la société civile à Manono, a indiqué que les 8 morts ont été comptés du côté des bantous. Les bilans étaient certains pour ce qui est des pygmées, mais ce qui est sûr, selon l'abbé Kaloubi, est que certains pygmées ont aussi été blessés. D'après lui, les affrontements ont opposé mardi les milices appartenant aux deux groupes ethniques. La police, qui n'a pas pu intervenir, reconnaît que les affrontements sont récurrents entre bantous et pygmées dans la zone. La société civile a interpellé les autorités congolaises pour arrêter ces conflits ethniques qui datent de très longtemps et qui a fait un nombre inconnu de morts.
À l'occasion de leur sommet cette semaine à Libreville au Gabon, les chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont finalement instauré la libre circulation des ressortissants des pays du groupe, à savoir Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale et République centrafricaine. Pourquoi cette mesure n'a-t-elle pas été prise des années plus tôt? La réponse de Jean-Valentin Léama, professeur de finance à l'université Omar Bongo de Libreville, au micro de Bagassi Koura.
Ça traînait parce que il y a en Afrique centrale un certain nombre de pays de faible démographie, comme le Gabon et la Guinée équatoriale, qui avaient des craintes d'un envahissement de la part de certains pays de la CEMAC qui sont des pays à forte démographie. Donc, ils craignaient un envahissement.
Est-ce à dire que des pays comme le Gabon n'ont plus de crainte d'être envahis? Comme vous dites.
Non, la crainte existe toujours, mais nous sommes dans une communauté. La libre circulation, elle est inscrite dans les règles de la communauté. Mais la libre circulation ne veut pas dire la libre installation aussi. À la différence, justement, de la communauté européenne.
Un Camerounais peut aller à Libreville, mais il ne peut pas travailler au Gabon.
Un Camerounais peut venir à Libreville. Il peut venir au Gabon. La loi gabonaise dit que lorsque vous êtes ressortissant étranger, il faudrait qu'au bout de 6 mois, il faudrait que vous puissiez obtenir une carte de séjour, vous faire établir une carte de séjour. Et la question de la libre circulation donc, va être réglée maintenant par les législations nationales. C'est-à-dire que le pays, souverainement, peut procéder à un certain nombre de contrôles et tout pour vérifier si X, Y en règle. Et donc, deux choses différentes qu'il faut différencier, ouais. La circulation et l'installation.
Et qu'est-ce que cette nouvelle mesure de suppression des visas peut apporter sur le plan économique pour la zone communautaire?
Je vous dis, par exemple, au Gabon ici. Les Gabonais partent d'ici pour aller acheter cette marchandise, les marchandises qui sont vendues dans ce marché mondial pour venir vendre au Gabon. Le monde. Mais ça va contribuer naturellement à la dynamisation des échanges économiques.
Jean-Valentin Léama, professeur de finance à l'université Omar Bongo de Libreville. La lutte contre Boko Haram maintenant, le HCR s'inquiète de la décision du Niger de forcer des milliers de personnes à quitter les îles du lac Tchad après la sanglante attaque du groupe islamique nigérian dans cette région le mois dernier. Les précisions de Chérubin Dorsil.
Suite à la mesure prise par le gouvernement de Niamey, des milliers de Nigérians travaillant dans le secteur de la pêche sont obligés de quitter le lac Tchad pour regagner leur pays, rapportent les autorités des deux côtés de la frontière. Le mois dernier, les militants de Boko Haram ont attaqué l'île de Karamga, tuant au moins 74 soldats et civils nigériens. Al-Hadji Mohamed est le coordinateur pour le nord-est du Nigeria de l'Agence nigériane de gestion des urgences.
Les trois premiers jours, nous avons reçu près de 4000 personnes et un autre groupe de près de 3000 et nous sommes en train de procéder à leur enregistrement. Les 6 ans de guerre de Boko Haram ont contraint plus de 1 million de Nigérians à fuir leurs villes et villages. L'attaque contre l'île nigérienne est intervenue 3 mois après la décision du Niger de se joindre à une offensive internationale contre les insurgés nigérians et leur projet d'imposer la charia dans le nord-est du Nigeria. Carl Steinecker, représentant du HCR au Niger,
dit que les îles du lac Tchad, dont le gouvernement nigérien a ordonné l'évacuation, abritent de nombreux pêcheurs nigériens et nigérians. Si les civils nigériens peuvent repartir vers des villes de leur pays, les Nigérians, eux, n'ont pas d'autre choix sinon traverser la frontière.
Les moyens de vie des gens sont détruits parce qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent plus vivre et travailler dans le lac Tchad. Et on leur a dit, nous allons vous ramener dans votre pays. De quelles autres options disposent-ils? S'est interrogé Carl Steinacker. Les travailleurs migrants originaires du Nigeria sont évacués par camion vers l'État nigérian de Yobe, qui a été ravagé par l'insurrection de Boko Haram. C'est un retour risqué, déplore le représentant du HCR au Niger. Même si ce sont des migrants, il faut se demander, est-il approprié de les renvoyer chez eux et est-ce la bonne manière de le faire? Et la réponse dans les deux cas serait non. Quelques 16 000 réfugiés nigérians restent au Niger, ayant fui les attaques de Boko Haram contre leur village.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, la Cour constitutionnelle a débouté la requête des partisans de l'ex-président Blaise Compaoré, jugeant illégale la nouvelle loi électorale adoptée le mois dernier, qui disqualifie tous ceux qui ont soutenu le projet de modification de la Constitution en 2014. Pour les raisons invoquées par la Haute Cour, écoutons Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso, au micro de Bagassi Koura.
Bon, les raisons invoquées par le Conseil constitutionnel, par les grands sages, c'est que la requête est signée pour l'ensemble des conseils des députés par Maître Anasori Ouattara et que Maître Anasori Ouattara ne figure pas au nombre des autorités habilitées par la Constitution à saisir le Conseil constitutionnel pour le contrôle a priori de la constitutionnalité d'une loi. Donc, en d'autres termes, les requérants devraient signer eux-mêmes leurs documents conformément à l'article 157 de la Constitution. Ça veut dire que c'est pour juste de forme que la requête a été déclarée irrecevable parce que les signataires n'ont pas signé.
Est-ce que ce dossier est clos donc?
Ils disent qu'ils vont lutter par d'autres moyens, mais on ne sait pas comment, parce que vous savez même que la loi a été promulguée et quand le Conseil constitutionnel rejette en tout cas une requête, je ne vois pas comment ils vont encore se pourvoir. Donc ça va être très difficile.
Dieudonné Zungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso à Ouagadougou. Au Togo, plusieurs sites internet critiques du régime du président Faure Gnassingbé ne sont pas accessibles depuis Lomé. Déjà avant la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, les services sociaux comme Facebook n'étaient pas disponibles. Le point avec Ferdinand Haïté, président de SOS Journalistes en danger à Lomé.
L'Internet a été en partie perturbé avant la proclamation des résultats, notamment le 26 et le 27. Donc il y a eu des difficultés d'accès sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, WhatsApp. Les opérateurs et les fournisseurs d'accès à l'Internet au Togo ont tout fait pour perturber l'accès à ces réseaux sociaux. Maintenant, après la proclamation des résultats, c'est-à-dire que le 28, le 29, jusqu'à ce jour, plusieurs sites Internet ont été rendus inaccessibles. Une dizaine de sites Internet sont actuellement inaccessibles à partir du Togo. Lorsqu'on prend le profil de tous les sites qui ont été suspendus à ce jour ou qui sont accessibles à ce jour, on peut en conclure que c'est un acte volontaire parce que tous ces sites sont des sites critiques vis-à-vis du pouvoir de Lomé.
Au Mali, le vérificateur général a rendu son rapport sur la corruption en 2013 et 2014. Il l'a remis en main propre au président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Morgane Guiriec.
Ibrahim Boubacar Keïta avait affirmé en présentant ses vœux que 2014 serait l'année de la lutte contre la corruption. Amadou Ousmane Touré, le vérificateur général, a pris ses mots à la lettre. Son rapport est très précis. En deux ans, 153 milliards de francs CFA ont manqué dans les caisses de l'État malien à cause de la corruption et de la mauvaise gestion. Presque aucun service n'est épargné. Le fisc, les douanes, les domaines, les services sociaux, sanitaires et même l'éducation. La corruption gangrène l'administration alors que le pays est sous perfusion de la communauté internationale. Ce dernier rapport finira-t-il dans des tiroirs poussiéreux comme les précédents? La balle est maintenant dans le camp du président malien.
Et pour terminer, victoire des conservateurs aux élections parlementaires britanniques. Ils obtiennent 326 sièges, soit plus que la majorité absolue au Parlement de Londres.
Soyez au cœur de l'info.